RCF. Jean Moutapa, si votre nom n'est pas connu du grand public, des centaines de milliers d'hommes et de femmes ont tenu entre leurs mains, grâce à vous, des livres qui ont participé à changer leur vie ou à grandir spirituellement. Vous êtes éditeur, Jean Moutapa, et depuis 35 ans, vous dirigez le département spiritualité aux éditions Albin Michel, la plus importante maison d'édition laïque de livres spirituels consacrée aux principales religions du monde, islam, judaïsme, christianisme, bouddhisme, hindouisme, taoïsme. Mais l'on vous doit également d'avoir publié le poète François Cheng, la peintre Fabienne Verdier, et donné la parole à des survivants de la Shoah comme Magda Hollander-Lafont. La liste est impressionnante d'hommes et de femmes que vous avez contribué à faire connaître en leur permettant de publier leurs livres. Et puis vous êtes personnellement investi dans le dialogue interreligieux. Vous avez vous-même consacré plusieurs livres, articles, conférences et un voyage mémorable à Auschwitz dont nous allons reparler dans un instant. Puis sans oublier bien sûr la coordination d'encyclopédies qui font date et qui sont des ouvrages de référence comme l'histoire des relations entre juifs et musulmans, les deux tomes sur Jésus et l'après-Jésus sur les origines du christianisme, et puis récemment, un monumental travail sur les yogas. Alors Jean Moutapa, au plus loin de vos souvenirs, comment est né en vous l'intérêt, le goût pour la spiritualité ?
Au plus loin de mes souvenirs, j'ai eu, comme beaucoup d'enfants, une petite crise mystique sur les 10 ans. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que peu de temps après, je me disais anarchiste. Donc, sur les 10 ans, il y a eu une période où je voulais être missionnaire, mais missionnaire comme j'avais vu certains prêtres qui avaient une action sociale.
Genre prêtre ouvrier, plutôt à l'époque.
Non, une action sociale dans les pays de ce qu'on appelait le tiers-monde. Hein. Je connaissais un prêtre qui faisait partie du mouvement 1% tiers-monde. Des gens comme ça que j'admirais. Bon, ça n'a pas duré longtemps et c'est très vite passé à Che Guevara.
Passé de Jésus-Christ à Che Guevara. C'était ça.
Et qui était une figure christique, hein, enfin, notamment à travers sa fameuse photo qui, au-dessus de mon lit d'adolescent, a remplacé le crucifix pendant quelques années.
C'est pour ça que vous avez toujours été sensible à un certain christianisme social ? Ça vient de là, ça s'enracine.
Oui, et des prêtres que j'ai connus aussi dans mon quartier de banlieue parisienne, à Villeneuve-Saint-Georges. Le père Lucien Maratier, je m'en rappelle, qui faisait partie des petits frères des pauvres. Et ils étaient syndiqués, ils étaient éboueurs du quartier aussi. Et c'était des gens à qui j'avais en admiration, oui. Petits, je les avais en admiration.
Puis je crois que vous aviez une admiration aussi pour votre grand-père maternel.
Oui, alors le début du début, c'est ça, c'est mes grands-parents adorés. Mes grands-parents maternels du sud de la France, de Faugères dans l'Hérault. Et mon grand-père tout particulièrement, qui était un ancien cheminot, qui avait fait la guerre de 14, qui n'était ni très cultivé et pas riche du tout, et qui était très catholique, mais d'un catholicisme de bonté, en fait.
Hein. Il le vivait beaucoup.
J'allais beaucoup au jardin avec lui. Et il le vivait. Et son jardin potager était extrêmement florissant, au sens propre du terme, parce qu'il y avait beaucoup de fleurs. Et on ramenait le samedi les fleurs pour l'église. Lui dans sa grande hotte et moi dans ma petite hotte en osier. Et on allait fleurir l'église pour le lendemain matin. Voilà.
Et autre figure qui a été très importante pour vous, c'est votre instituteur.
Oui, alors là, c'était pas du tout religieux. Hein, c'était l'instituteur hussard noir de la République, instituteur de CM2, qui m'a énormément marqué, Monsieur Mouette, qui a aussi beaucoup marqué, je l'ai su après, beaucoup de monde sur Paris. Mais moi, quand je l'ai connu, c'était à Villeneuve-Saint-Georges. Et voilà, Jean Giono, Victor Hugo, Jaurès, tout gosse comme ça. Il nous en parlait avec une telle intensité que ça a marqué beaucoup la suite. Et j'ai eu la chance, plus de 40 ans après, de le retrouver.
Il paraît qu'il... Il vous a encouragé, il a décelé chez vous très tôt un goût pour la littérature et surtout un talent d'écriture. C'est ce que m'a dit un de ses proches que j'ai rencontré récemment.
Oui.
Qu'il avait été voir vos parents pour dire, mais il faut l'encourager, il a du talent ce petit.
Talent d'écriture, je ne sais pas. Et en fait, je sais quand même qu'il hésitait. J'étais très bon en maths aussi. Et il hésitait et il savait pas trop si ma vocation était littéraire ou scientifique. Il a terminé le CM2 avec cette interrogation, etc. Et après, il a été très heureux, bien sûr, de voir que j'étais devenu éditeur. Je ne crois pas que j'ai de talent particulier moi-même.
Même si vous avez écrit quelques livres, non, vous croyez pas. Votre talent, c'est d'accompagner les autres dans l'écriture.
Oui, j'ai un talent de médiateur en fait, dans beaucoup de choses. Mais bon, c'est très adapté au métier d'éditeur, bien sûr.
Visage, RCF.
Alors Jean Moutapa, c'est vrai que. On parle rarement des éditeurs. Ils sont derrière leurs auteurs. Ils mettent en avant leurs auteurs et eux sont discrets. Et je suis content de recevoir un éditeur et l'éditeur que vous êtes. Alors j'aimerais savoir comment est née chez vous cette aventure qui a duré plus de 35 ans maintenant dans l'édition, notamment dans l'édition spirituelle chez Albin Michel, puisque vous, je le rappelle, vous dirigez la collection de spiritualité chez Albin Michel.
Ce serait trop long à raconter, c'est une suite de concours de circonstances que par la suite, bien sûr, en regardant en arrière, on peut appeler vocation. Mais en réalité, c'est beaucoup un concours de circonstances. J'ai vécu plusieurs années dans une communauté qu'on avait construite dans les années 70, comme beaucoup, cheveux longs, Indiens d'Amérique du Nord et agriculture biologique, et poésie et art. Et donc, pendant plusieurs années, on avait publié le livre d'un des nôtres qui était plus âgé que nous, Daniel Ponce, et les livres, et je les ai diffusés chez les libraires, dans les bibliothèques, etc., de France et de Navarre, avec les catalogues d'éditeurs de poésie et de littérature, des noms comme Folavoine, Temps Parallèle Édition, Rougerie... Donc inutile de dire que c'était
tout petit,
oui, c'était l'époque des vaches maigres, hein, il faut bien dire ce qui est. Et puis de fil en aiguille, eh ben il s'est trouvé que entre poésie et spiritualité, il y a toujours un lien. Hein.
Souvent.
Oui, il y a souvent un lien. Et par exemple, j'ai vu que dans les FNAC, la FNAC était très importante à l'époque. J'ai vu que dans les librairies, par exemple le prophète de Khalil Gibran passait du rayon poésie au rayon spiritualité. C'était une, voilà, dans les années, début des années 90, fin des années 80, c'était une époque comme ça où, voilà, un engouement pour le bouddhisme. Voilà, moi j'avais envie de me poser et on me propose de travailler d'abord au service de cette collection Spiritualité vivante qui existe chez Albin Michel depuis 1946. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé.
Hein. Oui, qui a eu un rayonnement très important en France, notamment pour faire connaître l'hindouisme, le bouddhisme.
Exactement.
C'était dirigé par Jean Herbert, un orientaliste.
Jean Herbert jusque 1980 ou 81, je me rappelle plus, jusqu'à sa mort. Et ensuite, Marc de Smet, qui lui venait du bouddhisme. Et donc là, c'était déjà florissant.
Oui, des livres qui ont participé vraiment à faire connaître les grands maîtres spirituels de l'Inde. Je pense à Ramana Maharshi, Mahananda Moy, Ramakrishna, Vivekananda. C'est ces collections-là qui ont fait connaître ces maîtres spirituels de l'Inde.
Même Gandhi, Herbert a publié Gandhi avant sa mort, en 1947, ses lettres de prison. Donc oui, ça a marqué des générations. Et parallèlement chez Albin Michel, il y avait une grande collection, la première collection juive chez un éditeur non juif. Un éditeur généraliste, hein. Albin Michel, ça a toujours été généraliste. Bon. Et d'ailleurs, plutôt catholique, hein. La famille, en tout cas, était catholique. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivé et que Francis Esménard m'a fait confiance.
Donc, Francis Esménard, c'est le directeur d'Albin Michel.
Le président d'Albin Michel, qui n'est autre que le petit-fils de monsieur Albin Michel. Il n'a pas le même nom parce que Albin Michel n'avait qu'une fille et c'est son gendre Robert Esménard, le père de Francis, qui a pris les rênes. Ensuite, quand je suis arrivé, c'était Francis Esménard et c'est avec lui que j'ai travaillé pendant 35 ans.
Mais vous, Jean Moutapa, vous aviez à ce moment-là, donc là on est fin des années 80, début des années 90, vous aviez une véritable appétence, curiosité pour ce qui est de la spiritualité?
Alors, moi, c'était surtout le christianisme, et un christianisme social, un christianisme catho de gauche, comme on disait à l'époque. Hein. Et donc, je suis arrivé avec cette production, une production, disons, catholique contestataire, comme ça. J'avais des amis, j'ai publié Jacques Gaillot, j'ai publié Eugen Drevermann.
Qui a été très connu au début des années 90 et puis qui est assez oublié maintenant.
Oui, qui est un peu oublié, mais qui a... c'était de la folie. Hein. Ça a été un de grands, grands succès, notamment le livre « Fonctionnaire de Dieu ». Et donc je suis arrivé avec ça et j'ai rassemblé le reste, c'est-à-dire la production orientaliste, je dirais, et la production juive et judaïsante. J'y ai ajouté l'islam, et voilà, ça donnait un département qui devait concerner toutes les religions.
Jean Moutapa, comment est-ce que vous présenteriez un peu les axes qu'ont été les vôtres dans ce développement de la collection spiritualité que vous avez développée chez Albin Michel tout au long de votre carrière? Est-ce que vous avez repéré des axes qui étaient essentiels dans votre travail?
Il y en a plusieurs, mais au départ, c'était essentiellement le dialogue interreligieux. C'est-à-dire, j'étais catholique, impliqué dans le dialogue judéo-chrétien, dans le dialogue islamo-chrétien, et j'ai publié beaucoup de livres dans ce domaine-là. Je suis devenu d'ailleurs un catholique judaïsant, carrément. On pourra en reparler. Mmh. Mais voilà, ça a été, on a organisé avec des amis de la revue. J'écrivais dans la revue Actualité religieuse dans le monde. C'est l'ancêtre, en fait, du monde des religions. Mmh. Hein, et j'y écrivais des articles sur les grands moments de dialogue interreligieux.
Où est-ce que ça vous a semblé important, fondamental, de vous impliquer dans le dialogue interreligieux? Parce que c'est vrai que vous y avez consacré une partie de votre
complètement,
vie.
Complètement, oui. Mmh. Pourquoi? Parce que je ne conçois pas, si je veux approfondir ma propre tradition, je ne conçois pas de la comprendre sans son rapport aux autres. Un rapport qui a souvent été conflictuel avec l'islam, avec le judaïsme, n'en parlons pas. Hein, c'est une histoire qui est souvent violente d'ailleurs, de la part du christianisme d'ailleurs souvent. Mais c'est une histoire qui nous a constitués. Et donc, pour me comprendre moi-même, j'ai besoin d'étudier ce rapport à l'autre. Alors, on parlait de dialogue interreligieux. Vous savez, avec le temps, je sais que le vrai dialogue, c'est un pari. C'est vraiment quelque chose de très difficile. On voudrait dialoguer, mais on comprend l'autre à l'aune et selon les catégories qui nous ont déjà été inculquées. C'est un peu normal. Mmh. Alors, des fois, on peut dire qu'il y a presque incommunicabilité, parce que chacun voit l'autre à l'aune de ce qu'il est lui-même. Mais en ce temps-là, fin des années 90, on parlait beaucoup de dialogue interreligieux. On a fait, avec des amis, les premières assises nationales du dialogue interreligieux.
En lien avec la revue Réforme.
Avec la revue Réforme, avec Actualité religieuse dans le monde. Mmh. Ensuite, les deuxièmes en 98 à Lille. C'était un mouvement. C'était l'époque de « Nous avons tant de choses à nous dire » du père Christian Delorme avec Rachid Benzine.
C'est la première fois qu'on faisait vraiment dialoguer dans un livre un musulman et un chrétien.
Oui, un jeune musulman qui venait de Trappe. C'était passionnant.
C'est vous qui l'avez publié, vous qui avez proposé ce travail-là.
Oui, oui.
C'était une époque, on va dire, ces années 90, du dialogue interreligieux, et aujourd'hui, on s'est éloigné de cet enthousiasme-là?
Oui, mais c'était une époque, alors qui suivait, il faut le dire, le grand rassemblement d'Assises en 1986. Hein, donc c'est la décennie ou les 15 ans qui ont suivi. Et je crois qu'on a aussi pas mal déchanté, c'est-à-dire on a souvent constaté que le dialogue entre institutions religieuses, entre représentants religieux, imams, rabbins, évêques, etc., souvent ne donne pas grand-chose. Souvent ne donne pas grand-chose pour de multiples raisons, parce que on a une parole contrainte, parce que on peut pas aller jusqu'au bout, on ne peut pas reconnaître que nous avons une propre histoire qui a été influencée par l'autre, etc., etc. Donc moi j'ai toujours préféré un dialogue de personnes, et souvent de personnes laïques. Donc oui, ça a été une époque d'enthousiasme, mais difficile, quoi.
Hein, parce qu'on a l'impression qu'il y a un dialogue institutionnel, comme vous dites, avec des personnalités religieuses, ce qu'on a vu à Assises, qu'il y a un dialogue scientifique avec des érudits, des intellectuels, et puis il y a ce qu'on appelle le dialogue de vie avec des gens simples, qui se rend compte, et là on n'en parle pas beaucoup, hein, c'est on habite dans la même rue, et puis au moment du ramadan, des musulmans invitent des français à la rupture du jeûne, des juifs vont inviter des catholiques pour Shabbat, des catholiques vont inviter au moment de Noël des musulmans à participer à la fête.
Bien sûr. Mais tout ça est très bien.
C'est complémentaire.
C'est complémentaire. Tout ça est très bien, mais moi, disons que personnellement, j'ai toujours eu une exigence supplémentaire qui est de ce que je disais, c'est-à-dire retrouver ce qui, en moi, en mon histoire, en l'histoire de ma tradition, relève de l'altérité. Relève du rapport que notre tradition a eu à l'altérité.
Et notamment avec le judaïsme.
Je cite souvent, vous voyez, le dialogue au sens propre, c'est le contraire de la violence. Et qu'est-ce que c'est la violence? Je cite souvent cette citation du philosophe Eric Weil, qui dit « Il y a violence dès lors que je me refuse à faire participer l'autre à l'élaboration de mon propre discours ». Ça, c'est ce que les officiels ne peuvent pas faire. Hein? Et par contre, nous, fidèles de telle ou telle tradition, nous avons à travailler sur nous-mêmes, avec les sciences humaines, avec l'histoire, à travailler sur nous-mêmes pour nous reconnaître, en l'occurrence quand on est chrétien, pour nous reconnaître, mais plus que sémite, comme le disait Pie XI, en fait, ce rapport avec le judaïsme est fondamental. Fondamental. L'ami des bars, ça est nous, à l'aide de Béchot Gmali, à l'Tsavrehem, Yetzal Tselou, Pamonim Gdolim, ça est nous, ça est nous, l'ami des bars, ça.
Alors Jean Moutapa, on reparlera de ce rapport au judaïsme qui est très important dans votre vie, qui a été très important dans votre travail d'éditeur chez Albin Michel. Je voudrais qu'on regarde un peu ces axes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a trois axes chez vous dans tout le travail que vous avez mené, puisqu'on se retrouve...
Allez-y, analysez.
Il y a eu celui de on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, faire connaître davantage un christianisme contestataire, progressiste, on va dire. Hein. Ça, ça a été votre travail avec, on l'a dit, Drewermann, mais pas uniquement. Enfin, vous continuez aujourd'hui,
encore je pense récemment, qu'on peut citer. Christine Pedotti, Anne Soupa,
Gabriel Ringlet,
Gabriel Ringlet, un certain féminisme catholique, j'en suis fier, oui, il faut faire.
Et pourquoi ça vous semble aussi important, je dirais, de soutenir ces chrétiens qui ont cette sensibilité de gauche, comme on dit, ou qui sont
progressistes? Oui, on n'est plus tellement de gauche. Non. Parce que, pour de multiples raisons, mais disons progressiste. Cela dit, je suis moi-même, partie prenante, mais je suis moi-même critique vis-à-vis de ces mouvements-là, notamment de ce qu'on appelait les cathos de gauche dans les années 80-90, parce que souvent, tout ça manquait de spiritualité. Or, l'homme a besoin, on est là pour, les religions sont là pour ça, on a besoin de spiritualité.
C'était beaucoup dans l'engagement social,
oui,
dans la militance
et parfois,
politique.
Parfois, on pourrait dire, le mouvement des prêtres ouvriers, etc., que ben, souvent ça s'est enlisé dans une sorte d'humanisme bien pensant et qui, ma foi, n'avait pas tellement plus à apporter que les copains communistes ou syndicalistes. Et ça, c'est dommage parce que ça a fait fuir un bon nombre de chrétiens parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait plus une liturgie suffisamment vivante, enracinée. L'enracinement, ça veut dire quelque chose, c'est pas seulement...
Et une coupure avec la tradition, comme on dit souvent aussi. Le reproche alors, qu'on leur fait...
Comment ne pas être coupé avec la tradition tout en n'étant pas tradit? Hein, c'est une équation difficile. Mais moi, je cherche les gens, les auteurs, qui pourront être... Alors, je le trouve chez des poètes, chez des moines, qui pourront être complètement enracinés. Et parce qu'ils sont complètement enracinés, complètement libres. Même vis-à-vis... des directives de leur propre église.
Vous avez participé à l'élaboration d'encyclopédies qui ont fait date, des encyclopédies majeures sur le dialogue entre islam et judaïsme, sur la connaissance du yoga récemment. Et puis vous avez publié deux grosses encyclopédies, une sur Jésus et une sur l'après-Jésus, avec Madame Pedotti, mais aussi coordonnée, dirigée par Monseigneur Doré, l'ancien évêque de Strasbourg.
Oui, on peut dire sous l'inspiration vraiment de Joseph Doré, oui. Ah, oui.
Qu'est-ce que vous avez voulu apporter, justement, comme réflexion sur l'origine du christianisme à travers ces deux grosses encyclopédies?
Alors, dès le départ, dès la première histoire de l'islam et des musulmans en France, en 2006, vous parliez de leitmotiv dans mon travail, eh bien, l'une de ses directions, c'est que on ne peut pas parler sérieusement de spiritualité, de religion, etc., sans faire de l'histoire, de la géographie, de l'anthropologie, et sans accueillir, intégrer l'apport des sciences humaines. Sinon, on parle dans le vide, on est dans l'idéologie.
Ça, vous insistez beaucoup là-dessus. C'est fondamental pour vous, ça.
Bien sûr, parce qu'on voit trop comment les religions, toutes les religions toutes d'ailleurs, dérapent dans des idéologies, dans un discours vide qui n'a souvent aucun rapport avec ce qu'est l'homme, mais aucun rapport avec l'histoire, tout simplement.
Il y a d'où l'importance du travail historico-critique, voilà, comme l'on dit, voilà, dans toutes les religions.
Voilà. Et alors après l'avoir appliqué à l'histoire de l'islam en France, à l'histoire des relations entre juifs et musulmans, le grand rêve, c'était de l'appliquer à la figure de Jésus, par les textes, par la critique des textes, critique au sens scientifique du terme, hein, pas au sens moral du terme, avec les meilleurs, en prenant les meilleurs.
Et quand vous dites les meilleurs, ce sont des protestants, des catholiques, des scientifiques non-croyants.
Des historiens non-croyants.
Il y avait combien de personnes qui travaillaient sur Jésus?
Sur le Jésus, il y avait 70 auteurs, plus... Ça, c'était un peu, ma démarche aussi. C'était, il y avait 27 chapitres. Et à la fin des 27 chapitres, je donnais une carte blanche à toutes sortes de personnes
Des écrivains, souvent.
Des écrivains, oui, oui. Alors, juifs, musulmans, athées, comme André Comte-Sponville, comme, ou agnostiques, comme Edgar Morin, ou chrétiens, comme Jean-Claude Guillebeau, comme Sylvie Germain, comme... Et ça donnait une richesse. Pourquoi? Parce que...
Pour donner ce que vous appeliez des pages blanches, je me souviens.
Carte blanche.
Et là, il pouvait écrire sur un aspect de Jésus.
Oui, mais alors ce qu'il voulait. Hein.
Ce qu'il voulait, librement. Alors ça s'intercalait entre les études scientifiques, thématiques, sur ce que l'on connaissait.
Il y avait l'étude sur les paraboles, sur les miracles, sur la passion. Et puis, il y a le regard d'un musulman, d'une musulmane en l'occurrence.
Karima Berger.
Leïli Anvar, d'un juif comme Amos Oz, qui déclare « Non, moi, aimer le monde entier, c'est pas possible, je peux aimer 15 personnes au maximum, etc. » Mais quand même, il est des nôtres. Amos Oz, grand écrivain israélien, et il le reconnaît comme israélien. Bon, c'est intéressant.
Mais qu'est-ce que vous vouliez offrir au lecteur à travers ces travaux qui sont généralement réservés à des experts, à des scientifiques?
C'était notre travail d'édition, c'est-à-dire on prend les meilleurs, on les oblige, c'est un travail, hein, on les oblige à parler pour tout le monde, on prend différents modules, des modules courts, sur telle petite question,
De grosses questions quand même, sur comment Jésus est-il mort, très scientifiquement, très précisément, qu'est-ce que les miracles?
Oui, et puis les questions que les gens se posent, quel est le rapport entre Marie-Madeleine et Jésus, etc., etc. Pourquoi Jésus est-ce qu'il était vraiment célibataire, etc. Bon. Donc, on prend ces questions du public, on les traduit, on demande aux scientifiques d'y répondre, et on les retraduit aussi, sous leur regard, bien sûr, pour le grand public, parce que profondément, je suis chrétien, et que je veux qu'on parle de Jésus autrement, pour toucher plus de monde, parce que Jésus concerne tout le monde. La question, c'est ça, alors, les cartes blanches ont montré ça, la question Jésus, pour vous,
Qui suis-je? Cette fameuse question.
C'est ce qu'on a posé à ces 27 personnalités. Ouais.
Jean Moutapa, vous avez fait le choix ensuite de poursuivre cette enquête sur les origines du christianisme. Et là, vous avez publié avec la même équipe.
Presque la même équipe. Joseph Doré était trop fatigué, ne pouvait pas diriger ce volume après Jésus, sous-titre L'invention du christianisme.
Donc là, on est de 30 jusqu'à 250.
Jusqu'à 250.
Vous n'avez pas été jusqu'à Constantin.
Non, jusqu'à 250. Parce que c'était déjà assez volumineux comme ça. Et parce que, premièrement, une église, est constituée à peu près vers 250, avec, on prend le critère de Saint-Cyprien, de l'unité de l'église. Hein. Et d'autre part, c'est la première persécution universelle, comme on dit, c'est-à-dire dans tout l'Empire romain. Auparavant, il y a eu des persécutions ponctuelles à Alexandrie.
Localisées.
Ouais, voilà. Donc c'est à ce moment-là que l'église est une et elle peut partir, je dirais, intellectuellement, spirituellement, à la conquête de l'Empire.
Hein. Alors, qu'est-ce que ça a fait bouger chez vous? Ce type de travaux. Parce que vous êtes l'éditeur, vous rassemblez les meilleurs, les plus grands spécialistes, comme vous dites. Et là, qu'est-ce qui bouge chez vous?
Alors écoutez, franchement, j'avais beaucoup travaillé, notamment sur le contexte juif, enfin travaillé et publié sur le contexte juif des années 30, donc de la vie de Jésus et... Et donc, le Jésus m'a apporté beaucoup dans la méthodologie de Joseph Doré est proprement géniale. En historien, il part de la rumeur de la résurrection. Ça, c'est un fait historique. La résurrection ne sera jamais un fait historique.
Donc, une preuve historique.
Oui, voilà. Donc, mais le fait que la rumeur se répande comme une traînée de poudre en quelques années, ça, c'est un fait historique. On part de là, et puis après, on va à rebours, si vous voulez. Bon, c'est une méthodologie géniale. Et donc, là, je dirais que ma foi n'a pas été... Elle a été complètement confortée par ce volume... Et j'ai appris, je dirais, au plan personnel, hein, beaucoup plus de choses dans le après Jésus car c'est proprement révolutionnaire. Si vous lisez l'histoire de ces 8-10 premières générations chrétiennes, c'est pas rien, 8 générations chrétiennes. C'est ce qui nous sépare de Napoléon, quoi, vous voyez. C'est pas rien. Et or...
Là, généralement, on ne sait rien, part les actes des apôtres que l'on lit par bribes à la messe, on ne sait rien sur comment vivaient ces premières communautés, quels étaient toutes les différents courants de pensée autour de qui était
comment
Jésus.
Comment ça a évolué, quels étaient les rapports avec les juifs, et comment grâce aussi avec la regrettée Marie-Françoise Basselès, grande historienne de ces décennies-là, qu'est-ce que c'était la messe à cette époque-là, hein. Bon, c'est là qu'on apprend que il n'y a pas de prêtre au sens sacerdotal du terme avant les années 220-230, mais c'est complètement, pour un catholique, moins pour un protestant, hein, mais pour un catholique, c'est proprement révolutionnaire de se rendre compte que 8 générations, ont vécu sans ces vocabulaires de sacrement, sacerdoce, sacrifice, pour faire la distinction entre un clergé et un monde laïque. Bien sûr, il y avait des presbyterioi, c'est-à-dire les anciens, hein, ça veut dire les anciens, comme les anciens de la synagogue, en fait, hein, c'est calqué tout ça sur...
Qui étaient des hommes mariés, voilà. Qui participaient à la communauté, au service des autres.
On est évêque de père en fils. Mm-hmm. Hein.
On choisit un évêque si c'est un bon père de famille et s'il gère bien sa propre famille.
Mais dès Paul, dans je ne sais plus quelle lettre de Paul, il faut n'avoir qu'une femme. Mm-hmm. Pour choisir l'évêque, il faut qu'il n'ait qu'une femme.
Et bien sûr, il y avait des femmes diacres.
Et alors, l'importance des femmes, pas très longtemps, hein, jusque un peu plus que les années 100, mais c'est quand même potentiellement extrêmement important. C'est-à-dire, en fait, prendre conscience que Jésus n'est pas un fondateur de religion. Jésus n'est pas chrétien, Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Comme dit Roselyne Dupont-Roch, il n'en est pas le fondateur, il en est le fondement. Hein. Mais prendre conscience de ça, c'est renoncer à beaucoup des échafaudages dogmatiques et de règles diverses et variées que nous nous sommes données, notamment dans l'Église catholique.
Jean Moutapa, nous poursuivons sur RCF cet échange autour de votre carrière d'éditeur à quelques jours de votre retraite, de votre départ.
Absolument.
De cette fonction de directeur du service spiritualité chez Albin Michel. Je suis heureux de relire avec vous ces 35 ans d'engagement dans ce monde de l'édition de livres spirituels. Alors, vous êtes bien connu aussi, Jean Moutapa, pour votre engagement auprès du judaïsme et de la connaissance du judaïsme. J'aimerais savoir pourquoi vous, chrétien, vous avez décidé de vous engager autant à la fois pour mieux faire connaître le judaïsme dans les autres traditions, mais aussi dans un vrai dialogue approfondi, fort, avec le judaïsme.
Écoutez, je ne sais pas.
Vous savez pas.
Je ne sais pas, c'est un désir tout jeune d'aller vers le monde juif. Il n'y avait pas seulement la Shoah, il y avait aussi, j'ai une fascination pour l'esprit critique toujours présent dans le monde juif. Et quand on rentre un peu dans la pratique talmudique, rabbinique, une intelligence est à l'œuvre. Une intelligence fait partie de la vie religieuse.
Et puis du questionnement, de l'interprétation. Interpréter, toujours.
On se transmet les opinions qui n'ont pas été retenues. Moi, je rêverais d'un Talmud chrétien où on nous enseignerait ce que disaient les cathares. Je pense que les cathares avaient tort sur le plan purement théologique. Je pense qu'ils avaient tort, ils étaient dualistes, etc. Enfin, ils ont été massacrés d'une manière absolument abominable. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce serait très intéressant d'apprendre, en même temps que le catéchisme, si vous voulez, au lieu d'avoir, dans le monde catholique, on a été d'une fainéantise intellectuelle, faut voir comme, pendant des siècles et des siècles. On commence tout juste à en sortir. Mais je rêverais qu'on nous apprenne ce que Pélage disait. On a retenu Saint-Augustin, c'est très bien. Mais, et peut-être que Pélage avait tort, mais ça se discute. Dans le monde juif, on apprend ce que disait Shammai et ce que disait Hillel. Et souvent, on choisit la solution qu'a préconisé Hillel, mais on apprend toujours ce que disait Shammai. Et pourquoi on a choisi Hillel, dit la tradition juive? Parce que dans l'école de Shammai, on apprenait ce que disait Shammai, mais dans l'école de Hillel, on apprenait ce que disait Hillel et ce que disait Shammai. Voilà pourquoi on a plutôt choisi Hillel. Mais c'est génial, tout ça. C'est l'intelligence à l'œuvre. Et pour moi, la vie religieuse, c'est aussi l'intelligence à l'œuvre.
Vous avez été très sensibilisé aussi par la question de la Shoah. Et il y a eu un moment fort dans votre vie, j'aimerais qu'on en parle, c'est ce fameux voyage à Auschwitz avec des juifs, des chrétiens, des musulmans. J'aimerais qu'on revienne sur cet événement qui a été un événement marquant. On est en mai 2003, le projet remonte à avant.
Mais à un an avant, oui.
Racontez-nous comment a démarré cette aventure qui, je sais, vous a profondément marqué.
Oui, alors ce qui m'a profondément marqué au départ, c'est la rencontre avec le père Émile Choufani, un grec catholique, donc d'une église qui est orientale, mais reliée à Rome.
Celui qui avait publié chez vous le livre Le curé de Nazareth, puisqu'Émile Choufani était curé à Nazareth.
C'était un journaliste, Hubert Prolongeau, qui écrivait sur lui, et qui écrivait sa geste, je dirais, de épique, hein, on peut dire, hein, d'œuvre de paix, d'abord entre les Arabes, parce qu'il est arabe, citoyen d'Israël, à Nazareth on est israélien, hein, entre les Arabes entre eux, hein, entre musulmans, chrétiens, de différentes obédiences, druzes, etc. Il a fait tout un travail comme ça dans sa jeunesse, et puis ensuite un travail énorme de rencontre avec les Juifs à l'intérieur de l'État d'Israël pour
rencontrer des jeunes Palestiniens avec des jeunes Israéliens.
Voilà. Et puis, tout ça s'est écroulé avec la seconde intifada, y compris son mouvement à lui. Tous les mouvements de dialogue se sont écroulés dans les années 2001, 2002. Il y a eu des images absolument horribles. Voilà, le choc était trop fort et le dialogue était rompu. Et il a décidé, parce qu'il a compris que les Juifs, ce qui était absolument impensable pour les Arabes, il a compris que les Juifs avaient peur. Et ça, c'était absolument impensable. Et moi, je l'ai vu aussi en France, puisque il a décidé de faire un voyage à Auschwitz d'initiative arabe, où il n'était demandé aux Juifs que de les accompagner. Pas de reconnaître la souffrance palestinienne, arabe, etc. Non, que de les accompagner. On ne leur demandait que ça. Et il m'a demandé de faire la même chose en France. Moi, j'avais beaucoup d'amis juifs et beaucoup d'amis musulmans, mais sur le papier, c'était presque impossible. Enfin, c'est...
Donc, il voulait faire partir un groupe d'Israël-Palestine, juifs...
De Tel Aviv, oui.
De Tel Aviv. Et vous, organiser la même chose en France et vous rejoindre à Auschwitz.
À Cracovie. En logeant à Cracovie et en restant non pas à peine 24 heures comme la plupart du temps on va à Auschwitz, on part le matin à 5 heures du matin, on rentre le soir à 11 heures, on n'a rien vu, on n'a rien compris la plupart du temps. Là, on est resté 4 jours sur place parce qu'il était très important que le monde arabe, qui dit parfois que les juifs font la même chose que ce qu'on leur a fait, etc., il était très important qu'ils comprennent la spécificité de l'industrialisation de la mort, de ces trains qui arrivent, 3000, 4000, jusqu'à la machine qui absorbe, qui produit jusqu'à 12 000 cadavres par jour dans l'acmé de cette entreprise. Et donc, ça, c'est évidemment incomparable. Pour le comprendre, il ne fallait pas aller à Auschwitz, qui est un camp de concentration. Il fallait aller à côté, où tout le monde dit qu'il n'y a rien à voir, parce qu'évidemment, presque tout est détruit, c'est-à-dire à Birkenau. Voilà. Et avec des témoins.
Vous en avez écrit un livre, Jean Moutapa, Un arabe face à Auschwitz. Comment vous pourriez nous dégager ce qui, selon vous, a été l'essentiel de ce voyage et qui a fait que ces hommes, ces femmes, juifs, musulmans, chrétiens qui ont participé sont parvenus les mêmes?
Alors d'abord, il faut dire, moi je suis chrétien, je l'ai organisé en France, Émile Choufani est prêtre, mais il y avait très peu de chrétiens. Souvent, vous savez, quand on dit pèlerinage en Terre Sainte, avec les trois religions, il y a 90% de chrétiens, et enfin, je caricature, mais trois juifs, trois arabes. Non, là c'était essentiel, c'était vraiment judéo-arabe, et peut-être 10% de chrétiens sur les 500 personnes qui étaient là. Qui se sont
beaucoup
retrouvés
d'arabes,
sur place.
Beaucoup de musulmans qui étaient venus, qui avaient accepté de
beaucoup
venir.
Beaucoup de musulmans ou de culture musulmane. Parce qu'en France, on peut être musulman sans pratiquer, on est de culture musulmane. Bon. Et ce n'était pas du tout un pèlerinage, surtout pas un pèlerinage, c'est pas un lieu sacré, c'est un lieu d'horreur. Et l'idée, c'était de réaffirmer ensemble que nous sommes des humains, sur ce lieu où les nazis avaient voulu tuer l'idée même d'humanité à travers le peuple juif, mais ce qu'ils voulaient tuer, c'était l'idée même d'une humanité une. Et donc, on réaffirmait l'unité de l'humanité à tel point que, au début, les gens, c'était quand même très chaud, comme on dit d'une manière triviale, si vous voulez, très serré comme problématique. Les gens ne savaient pas comment se comporter. Et puis à la fin, au bout des 4 jours, les gens se tenaient. Les corps s'étaient touchés, parce que nous sommes des corps aussi. Si on dit « je suis un humain »,
et ça, au-delà de mon appartenance à telle ou telle religion, je suis d'abord
au-delà de
humain.
Toute appartenance. Oui. Ouais. Voilà. Et ça a été... C'était impossible sur le papier, je vous le rappelle, en plein début de la guerre de Bush en Irak, de la sale guerre de Bush en Irak. C'était impossible sur le papier, parce que beaucoup de musulmans nous avaient dit « Ah oui, mais c'est pas... plus tard, mais pas maintenant, pas à ce moment-là. » Ça a été possible. On doit ça à Émile Choufani. C'est lui qui a donné l'inspiration.
Ça a été une rencontre déterminante, je crois, dans votre vie, Émile Choufani. Parmi tous les hommes, les femmes que vous avez rencontrés, je crois que vous êtes très marqué par cette figure d'Émile Choufani.
J'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil, de rencontrer le médecin Tenzin Chodrak, le médecin particulier du Dalai Lama, un homme extraordinaire. J'en ai rencontré des gens vraiment vivants, mais lui, de parce qu'il m'a demandé, parce qu'en fait il m'a posé la botte, m'a dit au téléphone comme ça d'Israël, il me dit je vais faire ça. Ah, oui, très bien. Je veux que tu fasses pareil en France.
C'est parce qu'il vous a entraîné.
Oui.
Mais il y a pas que ça. Il y avait sa personnalité qui vous a quand même bouleversé.
Ah oui. Mais il, si vous voulez, c'est comme si j'étais face à un Martin Luther King, franchement, hein, qui n'a peur de rien. Et qui me dit, toi aussi, il faut que t'aies peur de rien, et vas-y, marche. Et donc, je me suis mis en marche. Et je n'ai pas travaillé pour Albin Michel pendant 4 mois. Mon président l'a vu, il ne m'en a pas tenu rigueur, ce qui est le signe d'une générosité, d'une amitié formidable. Et ça a été possible.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été.
Je comprends mieux maintenant, Jean Moutapa, pourquoi, comme éditeur, vous avez fait le choix ensuite d'éditer des témoignages d'hommes et de femmes qui ont été déportés dans les camps. Parce que vous avez édité après Magda Hollander-Lafont.
Alors d'abord, Shlomo Venezia, qui était l'un de ceux qui nous accompagnaient, qui était l'un des très très rares, je crois qu'il n'y en avait plus que 6 à l'époque, en 2003, Sonderkommando, c'est-à-dire ces esclaves juifs qui faisaient fonctionner, sortaient les milliers de corps de la chambre à gaz. Donc ça s'appelle Sonderkommando, sous-titre Dans l'enfer des chambres à gaz, mais c'est vraiment ça.
Ils les sortaient des chambres à gaz après qu'ils soient morts, et ensuite ils allaient les brûler.
Et ils allaient les porter au crématoire. C'est pour ça qu'on dit que Auschwitz est le plus grand cimetière du monde. Non, c'est pas un cimetière, il n'y a pas de corps. Tout est parti en fumée. Et ce livre a été préfacé par Simone Veil, qui avait soutenu le voyage avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et puis il y a eu Magda Hollander-Lafont, qui était aussi présente, qui nous accompagnait, qui a été une grande rencontre pour Émile Chouffani. Et puis, récemment, j'ai publié aussi l'artiste sculpteur. Ils ont tous des histoires extraordinaires. Hein. L'artiste sculpteur Shlomo Zellinger, celui qui a créé le monument au mémorial de Drancy, mais aussi le monument à la Courneuve pour la Résistance, et aussi le monument de l'Allée des Justes à Yad Vashem, à Jérusalem. Ces gens, ces hommes et ces femmes... Il y en a que j'ai pas publié, mais que j'ai vraiment, qui ont été des amis, m'ont tous marqué profondément. Ils étaient tous empreints d'une humanité. Peut-être aussi justement parce qu'ils avaient touché le plus bas de l'inhumanité.
Ça vous émeut quand vous repensez. Et notamment Magda Hollander-Lafont, qui est décédée.
Ils ont disparu malheureusement, Magda Hollander-Lafont, au mois de décembre dernier. Émile Chouffani, il y a 3 mois. De maladie, mais je pense aussi de tristesse de voir tout ce qui se passe aujourd'hui.
Jean Moutapa, j'essayais en relisant toute votre histoire, et c'est vrai que j'ai suivi, grâce à vous, tous ces hommes, ces femmes sur RCF. On a reçu la plupart des hommes et des femmes que vous avez publiés chez Albin Michel dans ces collections-là. Et je vous en remercie parce que vous m'avez permis aussi de rencontrer tous ces hommes et ces femmes qu'on vient d'évoquer et bien d'autres. Hein. Je pense à Marie Balmary, à Annick de Souzenel, à Gabriel Ringlet. Enfin, la liste est impressionnante de tous ces hommes et ces femmes de grande spiritualité, des chercheurs. Hein, que
François Cheng.
Que vous avez, et François Cheng, bien sûr. Et Fabienne Verdier aussi dans un autre domaine, parce qu'il y a le domaine artistique, là on l'a pas évoqué, vous avez travaillé aussi beaucoup sur les artistes et la calligraphie notamment.
Les artistes calligraphes, parce qu'il y a toujours un rapport entre les calligraphies traditionnelles et les spiritualités, tant dans le dans toutes les traditions. Et donc, notamment Fabienne Verdier, qui est maintenant une artiste contemporaine qui n'a presque plus rien à voir avec la calligraphie chinoise qu'elle avait apprise pendant 10 ans.
On se souvient du livre que vous aviez publié, oui. Passagère du silence, oui. Où elle racontait ses 10 ans d'initiation en Chine. Alors c'est vrai qu'elle a énormément évolué dans sa peinture aujourd'hui. C'est l'une des grandes artistes contemporaines. Oui. C'est vous qui l'avez fait connaître quelque part à travers.
Oui,
livre,
moi je dis toujours, je dis pas comme ça. C'est notre rencontre qui a été un miracle et qui a fait que ça a explosé.
Mais c'est quand même un des rôles des éditeurs aussi, non? Qu'est-ce qu'on ressent quand on publie quelqu'un qui publie pour la première fois et on permet quelque part une certaine forme d'envol de cette personne?
Bien sûr, mais moi je serais plutôt porté à rendre grâce de la rencontre, si vous voulez. Parce que bien sûr, j'ai un Bon, petit à petit, j'ai eu un savoir-faire qui permet de faire connaître quelqu'un qui sort de l'ombre, entre guillemets, sur le plan médiatique. Oui, mais moi, j'en reçois tellement en retour. Donc, pour moi, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est la rencontre qui l'a faite.
C'est un métier de rencontre, le métier d'éditeur.
Ah oui, complètement. C'est un métier de rencontre humaine. Il n'y a que ça qui compte. Alors, peut-être moins en littérature, c'est peut-être en fiction, hein, en roman, c'est peut-être autre chose, parce qu'il n'y a pas que la rencontre, il y a aussi le savoir-faire littéraire d'un auteur, etc. Moi aussi, je tiens compte de ça. Mais comme on parle de spiritualité, il faut que je sois mobilisé par ce que porte la personne.
Parmi tous ces hommes, toutes ces femmes que vous avez rencontrées, on a évoqué Émile Chouffani, qui vous a profondément marqué. Il y a qui d'autre comme personne qui vous a fait grandir, je dirais, humainement? Quand vous relisez avec du recul et vous dites, la rencontre de cet homme, cette femme, m'a changé, m'a fait grandir.
Il y en a des dizaines, hein. Il y en a des dizaines. Mais je dirais que une figure ressort d'une amitié qui m'a, et pourtant je suis pas orthodoxe, mais qui m'a fait grandir. Oui, c'est vrai, c'est la rencontre d'Annick de Souzenel, très tôt, hein, dans les années 91, avec le symbolisme du corps humain. Et puis on a fait une
quinzaine. Vous avez écrit un livre, hein, de dialogue avec elle.
Un livre de dialogue
hein.
dans la suite, dans les années 93, 94. Et puis ensuite une quinzaine de livres que j'ai publiés d'elle. Ce n'est pas tant son discours, si vous voulez, qui m'a... sinon, je me serais converti à l'orthodoxie. Mm-hmm. Mais sa posture, son attitude. Et moi qui étais dans ces années-là, typiquement catho de gauche, c'est elle qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la liturgie, de la spiritualité, de la dimension verticale. Que j'avais pas encore vraiment
Donc c'est-à-dire la relation avec Dieu, quoi. Pas simplement la dimension horizontale de l'humain, de la relation humaine, voilà. Mais la relation avec Dieu.
Pas seulement la fraternité. Mm-hmm. La fraternité, oui, mais si nous sommes frères, c'est parce que nous avons un père. Mm-hmm. Donc il y a une verticalité qu'il faut traduire en termes de théologie et de liturgie et de chant.
C'est le symbole de la croix, non? L'horizontalité... Et la verticalité.
C'est le vrai symbole de la croix, plus que les crucifix avec des Jésus sanguinolents.
Jean Moutapa, je vais reprendre le titre d'une de vos collections, Spiritualité vivante. Qu'est-ce que c'est pour vous maintenant, avec toute l'expérience humaine de l'éditeur que vous avez été pendant 35 ans, qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité vivante?
C'est une spiritualité qui ne soit pas une idéologie, des idées que nous avons ou que je pourrais avoir sur l'humanité, sur les religions, mais qui soient incarnées. Qui soient incarnées tout simplement dans la vie de tous les jours. Mais c'était pas non plus un humanisme horizontal, comme on disait, parce que pour que la spiritualité soit incarnée, faut qu'elle soit aussi verticale. Faut qu'elle soit aussi... faut faire appel à plus haut que soi. Jusqu'à tout récemment, pour faire un aveu, je disais, je suis un catho qui ne sait pas prier. Et puis, cette année, j'ai fait mes Pâques à l'abbaye de la Pierre qui vire.
Chez les bénédictins.
Chez les bénédictins. Et on m'a demandé de prier. Je ne rentre pas dans les détails, mais ma fille... aînée, non-croyante, m'a demandé de prier pour sa grand-mère et d'autres, m'ont demandé de prier. Et alors, je me suis associé, j'ai franchi un pas là, je me suis associé à la prière que j'aurais pas pu le faire sans la liturgie, justement, de ces moines bénédictins. Et donc, je m'y suis associé en dédiant. Voilà, c'était ma manière de prier, en dédiant ces chants auxquels je participais aux personnes en question. Donc, voilà ce que j'ai...
Ce que c'est qu'une spiritualité
vivante. Je fais un petit
vivante.
Pas de plus vers ce qui pourrait être une spiritualité incarnée.
Et oui. On peut dire que c'est votre métier qui vous aura vraiment transformé, si vous relisez maintenant votre vie professionnelle.
Je ne sais pas si c'est mon métier. Mon métier m'a permis de faire toutes ces rencontres. C'est pas le métier, ce sont les rencontres que j'ai faites. Et alors, il se trouve que, effectivement, à la place où j'étais, le bon bonhomme à la bonne place, comme on dit des fois en anglais. Et donc, c'était une chance inouïe. C'est pour ça que, pour moi, tout ça, c'est pas une carrière qui serait brillante ou je sais pas quoi. C'est essentiellement rendre grâce à la vie pour toutes ces rencontres, quoi.
Eh bien, merci beaucoup. Moi, je rends grâce à la vie de vous avoir rencontré et d'avoir rencontré tous ces hommes et ces femmes que vous m'avez permis aussi de rencontrer au cours de ma carrière de journaliste qui
merci
se termine
Thierry.
Aussi à peu près en même temps que
merci
vous.
Thierry.
Merci pour cet échange nous avons vécu dans ce long compagnonnage à travers votre maison d'édition et puis à travers RCF. Merci Jean Moutapa.
Merci Thierry.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.